au nom de l'éthique. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 5 décembre 2024.
Sur cette nouvelle conf éthique, je suis ravi de vous accueillir à nouveau avec une date un petit peu emblématique, hein, ce jeudi 5 décembre 2024. Voilà, le gouvernement Barnier vient de tomber. Et eh bien, c'est pas grave, les affaires continuent. On avait prévu cette conférence au nom de l'éthique avec un très beau programme, une première table ronde qui portera sur la responsabilité individuelle étouffée par l'État, l'est-elle ? La société est-elle en perte de repère pour une deuxième table ronde ? Mais ce qu'on voudrait faire avec Sophie de Menton, qui est la chef d'orchestre de cette conférence éthique et la patronne du mouvement, c'est accueillir un invité exceptionnel. Alors, il est ministre encore pour quelques heures, voire quelques minutes. Alexandre Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre délégué en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Merci d'être là. On va débattre effectivement.
Avec plaisir.
Et de la situation politique actuelle, cette transition, et aussi de ce que vous avez pu faire pendant ces quelques mois. Sophie de Menton, bonjour.
Bonjour.
Un mot sur ce thème, au nom de l'éthique, pourquoi avoir choisi ce thème ?
Parce que, et c'est drôle, j'ai l'impression presque aujourd'hui qu'on vit un peu une conséquence de, non pas de la décadence, mais quand même une forme de délitement de la société et des institutions. Et on voit dans nos entreprises, alors on va parler d'entreprises parce que c'est le socle finalement de ce dont on va parler aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont, j'allais dire, obligés, mais contents, mais de tout faire. On donne des conseils sur l'éducation des enfants, sur les écoles. On donne des noms de médecins quand ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous. On prévient lorsqu'il y a des épidémies. À Éthique, on a commandé les masques pendant le Covid et on a aidé à faire des tests, c'était à nos chefs d'entreprise. Donc, il y a un délitement et c'est très compliqué. On voit aussi les jeunes qui arrivent dans nos entreprises, qui sortent de la fac, des écoles ou de nulle part, et à qui il faut apprendre la base de la civilité. Il faut leur apprendre que on a une tenue, on serre la main d'un client, on lui dit merci, etc. Donc voilà, et je me suis dit, mais il faudrait quand même en parler parce qu'on est tous concernés.
Oui.
J'ai la chance, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom, qui est d'être à la tête d'un mouvement qui s'appelle Éthique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance, donc avec une orthographe différente. Et voilà, et donc monsieur le ministre, je suis enchantée de vous recevoir. Et d'abord, c'est une intervention publique qui compte aujourd'hui puisque vous faites partie de ce gouvernement démissionnaire. Vous êtes donc ministre démissionnaire. Mais j'ai envie de dire que quoi qu'on pense de ce Premier ministre qui a démissionné, vous avez eu des mots qui ont touché tout le monde. Donc vous êtes peut-être un des ministres qui restera pour avoir dit ce que les gens ont sur le cœur. Vous avez eu un discours au Sénat super, qui, en tant que père de famille, etc., qui expliquait que voilà, à 4-5 ans, la théorie du genre, ça nous fatiguait un peu pour nos enfants. Vous avez parlé avec bon sens. Et donc on va peut-être poursuivre dans ce sens, parce que vous avez peut-être des idées. Avec bon sens, c'est-à-dire que donc l'école et la problématique des jeunes d'aujourd'hui est terrible. Et en tant que parent, on est très troublé. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que les parents ne sont pas assez associés. D'abord, c'est aux parents qu'on devrait donner des cours pour leur dire comment se comporter, comment éduquer leurs enfants, parce que là, c'est un déficit total. Vous êtes un ministre, mais quel bonheur, qui a dit qu'il fallait peut-être enlever les portables à l'école, dans certains cas,
ou même peut-être. D'autres.
Hein? Donc voilà, je vous laisse parler, mais quelle chance de vous avoir aujourd'hui. Je m'en réjouis vraiment et je suis sûre que vous avez beaucoup d'avenir.
Merci.
Donc, alors, comment percevez-vous un peu l'école aujourd'hui ?
Ce serait long, il nous faudrait sans doute plusieurs mois pour aller jusqu'au bout du sujet.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire vite et bien ?
Déjà pour, je voudrais déjà vous remercier de votre invitation. La situation est particulière, vous la connaissez. Le gouvernement est tombé par le vote d'une motion de censure qui est l'union insensée de contraires qui n'ont rien de commun, si ce n'est la volonté aujourd'hui du chaos, manifestement. L'avenir s'écrit en ce moment même, les choses vont bouger dans les heures et les jours qui viennent. C'est aussi important pour moi qu'on puisse avoir, malgré ce flux d'informations et l'actualité permanente, aussi un regard sur le temps long, sur ce qui compte vraiment, qu'on puisse tirer des leçons de ce qui s'est passé, mais aussi qu'on puisse se projeter vers l'avenir avec des vraies boussoles. C'est pas juste des questions de nom, c'est pas juste des questions de personne. Il s'agit d'abord de savoir pourquoi on s'engage en politique, quelles sont les choses fondamentales auxquelles on tient les uns les autres. Je crois que la première richesse d'un pays, ce sont d'abord ses hommes et ses femmes. Jean Bodin disait, il y a quelques siècles, il n'est de richesse que
d'hommes. C'est notre slogan, vous savez que c'est le slogan d'éthique. Slogan est une citation qui est celle d'éthique. Il n'est de richesse que d'hommes.
Et c'est sans doute l'une des plus belles phrases de toute la philosophie. Et donc, ça veut dire que notre premier investissement, par définition, dans un pays, c'est l'école. C'est pas pour rien que c'est le premier budget de la nation, le premier budget des collectivités locales, de la mairie jusqu'aux régions. Et c'est le cœur de toutes les attentions et de tous les enjeux pour l'avenir. Il n'y a pas de grand pays qui pèsera dans le monde demain sans investir fortement sur l'éducation. C'est la ligne que j'ai toujours défendue en tant que député, en tant que ministre, en tant qu'élu, et je dirais même en tant que père de famille, en tant que citoyen de ce pays.
Je vous interromps, pardon. Quand vous dites éducation, il faut distinguer l'éducation et l'enseignement.
On est d'accord.
Donc, qu'est-ce que vous dites par éducation ?
Victor Hugo disait l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Je pense qu'on devrait revenir à ce juste équilibre. Quand on est parent, quand on emmène ce matin, comme beaucoup de parents au moment où on se parle, ils viennent d'emmener leurs enfants à l'école. Ils ont emmené leurs enfants à l'école pas juste parce que c'est une obligation, mais aussi parce que l'école leur apporte quelque chose que eux ne peuvent pas apporter à leurs enfants. C'est ce savoir-faire propre qui doit être réhabilité. C'est le geste professoral, c'est la matière singulière, le geste de transmission d'enseignements fondamentaux, d'un bagage qui construit l'autonomie du jugement de nos enfants, qui doit être sanctuarisé. L'école, elle n'est pas là pour courir après tous les effets de mode. Elle n'est pas là pour courir après toutes les problématiques sociétales. L'école ne peut pas tout, elle doit se recentrer sur cette mission très spécifique. Ça veut dire le faire, évidemment, dans l'organisation du temps de nos élèves, mais aussi dans la manière dont on priorise nos objectifs.
Vous avez parfaitement raison. Et est-ce qu'on n'est pas soumis à, finalement, des divergences sur le sens de ce que doit apporter l'école, des divergences politiques? On sait très bien que la gauche et l'extrême gauche n'ont pas du tout la même définition de ce que doit être l'enseignement. Et donc là, c'est un problème presque politique. Le laxisme, l'enfant au centre du système, plus jamais de punition, on n'a eu pas de notes, on est passé partout. Pas de compétition. Un professeur qui me disait récemment, je disais, vous savez, dans les entreprises, il dit, mais moi, je suis pas là pour emmener des enfants à l'entreprise. Je dis qu'ils se débrouillaient bien parce qu'ils les emmenaient au chômage assez facilement. Mais donc, est-ce que c'est embêtant, cette divergence politique ?
À la fois oui, à la fois non, si vous me permettez. On a eu beaucoup de tentatives de politisation de l'école ces dernières décennies, avec l'influence de discours qui n'ont rien à voir avec le cadre scolaire, mais on a eu parfois des politiques, des lobbies qui ont tenté de pousser un certain nombre de représentations du monde dans l'école. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Et j'ai toujours tenu là-dessus une ligne républicaine. Les propos récents que j'ai eus au Sénat ne sont pas autre chose qu'une ligne républicaine.
Répétez-les en 2 secondes.
Ce serait long, mais ce que je dis, c'est simplement que, premièrement, l'école ne peut pas tout, que l'école doit des choses fondamentales et que l'école n'est pas le lieu ni du militantisme ni de l'idéologie. Voilà. L'école, elle est là pour aider les jeunes à construire leur jugement et à se construire dans la vie, tout simplement. Le reste relève de la sphère privée, se construit avec les parents, avec le milieu associatif. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être portées par le milieu associatif et l'État n'a pas non plus vocation à remplacer toutes les sphères de la vie privée. On n'est pas en URSS quand même, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est sain qu'on puisse resserrer l'école sur une mission qui est assez juste. Ma ligne, elle est républicaine. Fondamentalement, je crois que cette ligne-là, elle est partagée par une très grande majorité de Français. C'est ça qui est important. C'est que je vois un immense décalage entre des discours qui ont eu opinion sur rue ces dernières années et ce qu'attendent vraiment les Français de l'école. Et qu'à chaque fois que l'école a failli sur ses fondamentaux, c'est une déception pour les Français et un échec qu'ils ne pardonnent pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer...
Le classement PISA, d'ailleurs.
Exactement. Oui. Et encore récemment, les classements TIMSS sur l'enseignement des fondamentaux, du français, des maths, des sciences, on décroche. Et à côté de ça, on voudrait que l'école, elle s'occupe de tout et n'importe quoi.
Alors,
arrêtons cette folie.
Par rapport à ça, et je partage ce que vous dites, nous avons le sentiment, et nous le verrons d'ailleurs au cours de ce colloque, que je ne vais pas opposer le privé et le public, vous n'aimeriez pas et vous auriez raison, mais il y a quand même quelque chose de différent. Et j'ai un peu l'impression aujourd'hui que la solution pour le pays, c'est l'entreprise privée. Alors, vous me direz que c'est ce que je représente, je me bats pour ça, j'interviens d'ailleurs et on écoute et on est auditionné par tous les hommes et femmes politiques, que ça aille de François Ruffin à Marine Le Pen, etc. Nous avons l'impression qu'il faut influer. nous sommes exclus. Les entreprises sont exclues de la sphère publique. Vous en avez parlé, mais par exemple, presque personne ne peut avoir accès au ministre de l'Éducation nationale pour donner son avis. Là, on est en train de se battre. Nous avons à Éthique un combat, par exemple, pour l'enseignement à domicile. L'enseignement à domicile, c'est quelque chose qui a été supprimé au nom d'une idéologie compréhensive. On avait peur qu'il y ait effectivement des parents qui fassent des petits groupes religieux pour ne pas les mettre à l'école. Bon, très bien. Moyennant quoi, on a supprimé tout l'enseignement à domicile. Avec des systèmes invraisemblables, il faut des témoignages, des médecins, on n'arrive pas à l'obtenir, etc. Donc, supprimer l'enseignement à domicile. Donc maintenant notre recours c'est un peu effectivement l'enseignement privé, les initiatives, là il y a le retour de l'uniforme et c'est formidable, dans pas mal d'écoles s'y mettent, privées, publiques aussi peut-être. Je fais une parenthèse avec toutes les erreurs incroyables de l'État qui veut tout. Tout d'un coup, dans des quartiers un peu, non pas difficiles, mais peut-être moins riches que d'autres, on s'est mis à parler de l'uniforme et à les déguiser en Harry Potter. Et c'est l'État qui doit payer. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on est capable d'habiller ses enfants et on est capable d'acheter un jean bleu marine non troué et une chemise blanche avec un pullover. N'importe quel parent peut faire ça.
Qu'est-ce que vous en pensez justement de la question de l'uniforme ?
De l'uniforme.
À l'école.
J'ai toujours été clair là-dessus. J'y suis favorable, mais j'en fais pas l'alpha et l'oméga de l'école.
Vous portiez vous-même un uniforme, vous en avez porté ?
Non. Et je pense que c'est, enfin, faut le resituer dans ce qu'il peut apporter. Voilà. Il apporte quoi ? Il peut permettre d'atténuer des facteurs de perturbation du cadre scolaire et du climat scolaire.
Il a tenu quand même.
Et tout ce qui permet de faire en sorte qu'on n'ait pas de perturbation dans l'acte d'enseignement, dans le geste de transmission qui est fondamental à l'école, il faut le prendre. C'est pour ça que je l'intègre avec la question du téléphone portable, avec d'autres politiques qu'on mène pour lutter contre le harcèlement scolaire. Mais à la fin, le geste fondamental de l'école, c'est la pédagogie. On peut tous avoir un uniforme, mais si on n'est pas bon sur ce qu'on veut transmettre,
objection, votre
ça ne
honneur.
Suffira pas.
La tenue, les élèves qui ne respectent pas les profs, enfin, vous ne l'avez pas connu, mais le moment où le prof rentrait dans la classe, on se levait et on se tenait bien. Et donc, je pense que peut-être, tout simplement, un uniforme extrêmement simple, mais tout commence par la tenue, l'écoute et le respect.
Oui. Non, mais je vous le dis, j'y suis favorable parce que je pense que c'est un facteur d'amélioration du cadre scolaire. C'est un facteur d'affirmation d'une identité commune dans un établissement. Et tous les établissements où je l'ai vu en œuvre, les élèves apprécient ça. Et surtout quand ils ont été impliqués dans sa définition, dans son choix, dans sa construction. Troisièmement...
Sans faire payer l'État.
Troisièmement, je trouve que ça permet aussi, c'est pour moi le plus important, de mettre un petit peu dehors aussi toutes les influences marketing qui transforment nos gamins en espèce d'étendard permanent pour des grandes marques. Je trouve ça malsain aujourd'hui et un peu vulgaire dans une école qui n'a pas vocation à être ça. L'école, elle est là pour enseigner et c'est quand même terrible de voir des gamins se faire racketter, harceler parce qu'ils portent telle ou telle marque, de voir que ça peut être le sujet de violence entre eux.
Voilà. Oui, avec, et ça c'est vraiment pas de votre faute, avec les parents. Que font les parents ? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent que les enfants aillent en classe ou se battent pour porter des vêtements qui les différencient, etc. Là aussi, la place de l'État dans notre pays, et je parle d'éthique, et la place de l'État est difficilement compréhensible. Par exemple, je suis, pas du tout de votre fait, mais je suis très choquée par une campagne de publicité faite par l'ADEME. L'association, l'ADEME, campagne pour déconsommer. C'est-à-dire qu'au moment de Noël, nos commerçants, nos fabricants, nos industriels, nos marques souffrent en ce moment d'une situation politique entre autres difficile et d'un contexte mondial. Mais se trouver avec une campagne de pub qui dit avant Noël « Non mais n'achetez pas hein, !» avec un déconsommateur à l'antenne qui explique aux gens qu'il faut absolument ne pas acheter... C'est une parenthèse, mais donc le rôle de l'État, c'est pour ça que j'en reviens au socle de l'entreprise pour aider cette éducation, cet enseignement. Pour que l'enseignement arrive, il faut une éducation. Et donc, comment on pourrait... Tiens, nous recevions un chef d'entreprise qui a lancé Superprof. Vous connaissez Superprof ?
Ouais.
J'étais scotchée. Il a cherché un jour à prendre des cours. Oui. Il n'a pas trouvé. Je vous le fais court. Il a la plus grande boîte dans le monde avec 100 pays qui vont faire appel à Superprof. Et pourquoi il y a Superprof ou Academia dans un autre genre? Parce que l'éducation nationale n'arrive pas à donner l'enseignement satisfaisant pour que nos enfants progressent.
Alors je n'oppose pas, et c'est bien qu'on puisse avoir ce débat sur le public privé, moi je n'oppose pas public et privé. Je suis un enfant des deux écoles.
Je n'oppose pas, mais le privé d'années. Vient au secours du public.
Mais c'est complémentaire, et c'est pas un problème. Ouais. C'est comme ça depuis la création de l'État dans notre pays, en réalité. Y a une sphère publique, parce qu'elle permet d'assurer l'égalité des chances, elle permet d'assurer l'égalité de traitement partout sur le territoire. L'initiative privée ne va pas forcément là où elle est pas rentable, vous m'accorderez. Donc c'est important aussi que l'État, que l'école puisse être présent sur tous les territoires.
Bien sûr.
Et ça, je ne
le renonce
pas.
Comment vous expliquez que...
Pour autant, je trouve sain, dans un pays de liberté, qu'il puisse y avoir des initiatives privées pour compléter. Et quand un parent veut investir encore plus fortement sur l'éducation de ses parents, on va quand même pas lui dire non. Ce serait aberrant. Donc ça, c'est tout à fait respectable et les deux ne s'opposent pas, ils se complètent.
Et comment expliquez-vous que la plupart des professeurs viennent de l'éducation nationale, ils font ça dans leur temps libre alors que soi-disant ils sont épuisés, ils n'ont pas le temps, mais la plupart des professeurs, et c'est bien, font un boulot un peu en plus. Et ensuite, ce qui est ennuyeux, c'est que ça vient compléter... Regardez, autrefois... Il n'y a pas si longtemps que ça, les bons élèves étaient dans les lycées et les pas bons allaient dans le privé. Ça s'est inversé.
Alors, je n'ai pas de statistiques précises sur qui fait quoi, donc je ne pourrais pas avoir de propos bien intéressants là-dessus. Ce que je crois fondamental, c'est qu'il y a un principe dans notre système scolaire qui est la liberté de choix des parents. Voilà. Et ce principe-là, c'est un principe libéral,
au sens démocratique du terme. L'école à domicile.
Voilà. Et y compris pour l'instruction en famille. L'instruction en famille, elle a été réglementée, elle n'a pas été interdite. Voilà.
Et tellement réglementée qu'on n'y arrive pas.
Non, je n'irai pas jusque-là, parce que j'ai traité beaucoup de demandes de parents, mais sur le volume, une très grande majorité des demandes sont positives et acceptées. Il y a des cas qui sont plus compliqués et j'en ai accompagné beaucoup comme élu local pour savoir ce qu'il en est. L'école publique, c'est le fondement de l'égalité des chances dans ce pays, l'égalité de traitement, et c'est ce qui permet d'assurer à chaque gamin de ce pays les moyens d'y arriver par son travail.
Oui, d'accord.
Je suis attaché, je vous le disais, à la liberté de choix des parents. Qui peuvent être des choix de toutes sortes et qui ne sont pas forcément des choix religieux. C'est aussi important de
Bien
le rappeler,
sûr.
Parce que j'entends beaucoup d'attaques dans des sens ou dans d'autres. La question n'est pas là. Il y a des parents qui peuvent faire des choix qui sont liés à une organisation familiale, à des choix de vie,
à
la compatibilité avec leur vie professionnelle. Toutes ces questions-là, elles sont respectables et je n'imagine pas qu'on puisse aujourd'hui revenir en arrière. Plutôt que de vouloir opposer systématiquement, voyons plutôt la complémentarité entre les systèmes. La question aujourd'hui, elle est d'arriver à assurer le meilleur niveau de service à la population. Et moi, je n'oublie pas que le privé, ce sont dans nos règles fondamentales, dans nos lois et dans nos règles réglementaires précisément, le privé est toujours dans une mission de service public. C'est ce qui fait qu'on a des établissements sous contrat.
Bien sûr.
Ils font pas n'importe quoi, n'importe comment.
Mais
et le jour où
ça.
Ils respectent pas les règles, ils se soumettent par définition à des sanctions ou à la rupture du contrat. Donc tout ça est encadré. Et à la fin, ce qui compte, c'est qu'on puisse mailler l'ensemble du territoire. Vous avez des départements où il y a très peu d'enseignement privé parce que beaucoup de services, d'écoles publiques. Et puis vous avez des territoires où le privé pallie très fortement et historiquement. À un déficit, voilà.
Avec
et ça ne s'oppose pas, ça se complète.
Dans votre titre, on lisait « Ministre délégué en charge de la réussite scolaire ». La réussite scolaire, est-ce que c'est 99,9% de réussite au bac ?
Alors, c'est hyper important, et je le dis, c'était une volonté du Premier ministre qu'on ait cet intitulé dans ce périmètre ministériel, et qui me tient à cœur parce qu'il permet de dire beaucoup de choses. Il permet de rappeler ce qu'est la première mission de l'école, quand même. On a eu l'habitude, ces dernières années, de gérer beaucoup de crises. Voilà. Oui. En matière de sécurité, d'attentats de terrorisme, des questions de harcèlement scolaire, des questions budgétaires, des attaques contre nos agents. Et à la fin, on finit par oublier ce qu'est la mission première de l'école. La première mission de l'école, c'est de faire réussir tous nos enfants d'où qu'ils viennent sur le plan social, territorial, familial. Ensuite, ça permet de dire une deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a plein de manières de réussir. Et c'est là que ça répond à votre question. On a un système qui, depuis des décennies, survalorise toujours les filières générales au reste du système. Je suis un fils d'artisan et je vois bien le décalage entre la vie de notre territoire. J'ai aussi une casquette d'élu local. Je vois bien l'écart entre la vie de notre territoire et ces discours qui sont à rebours de ce que souhaitent et les familles et ce qu'est l'intérêt du pays aujourd'hui. Et donc, c'est aussi de pouvoir rééquilibrer la vision qu'on a de l'école. Il n'y a pas qu'une manière de réussir dans la vie, il n'y a pas qu'une manière de réussir à l'école en particulier. Et ce sont ces différents visages de la réussite qu'on doit porter aujourd'hui en mettant plus d'égale visibilité entre les différentes filières. C'est pour ça que la mission que j'ai eue aussi de porter l'enseignement professionnel est fondamentale. Quand vous regardez les enjeux qui sont devant nous pour le pays, la première des priorités, c'est d'assurer la souveraineté nationale. Et c'est pas un gros mot, souveraineté nationale. C'est juste le cœur de la mission de tous les dirigeants de ce pays.
Oui, alors, je peux pas m'empêcher de réagir là-dessus, parce que d'abord, on met tout sous le mot souveraineté. J'ai vu récemment, et c'est pas l'objet d'en parler ici, un appel d'offres où l'État choisit systématiquement des entreprises étrangères, alors que c'est l'État qui fait un appel d'offres, et pour son propre compte, ce qui est hallucinant, alors qu'inversement, pour le Doliprane, on fera un scandale total. Mais c'est vraiment la question que j'aimerais vous entendre là-dessus. La place de l'entreprise. Parce que tout ce que vous dites est parfaitement juste et il faut y associer les entrepreneurs. Vous dites que vous êtes fils d'artisans, c'est magnifique, on les associe, on voit ce qu'ils font, on en a besoin, etc. Mais on n'écoute jamais, on n'en parle jamais. Dans les écoles, on n'intervient jamais, on n'invite pas les professeurs. J'y suis allée de temps en temps, bon, on est invité de temps en temps, mais... Les professeurs ne savent pas ce que c'est que l'entreprise. Il y a des pays où ils font des stages dans les entreprises, les professeurs. Ben, je pense que ce serait pas idiot.
Alors, je suis très content qu'on puisse parler de ce sujet parce qu'il est essentiel. Quand j'ai souveraineté nationale, c'est que notre mission, quand on est engagé en politique, quand on est élu, quand on est dirigeant, quand on a la chance de pouvoir représenter ses concitoyens, c'est de préparer l'avenir. Vous connaissez la phrase, gouverner, c'est prévoir. Notre mission, c'est d'être capable de répondre aux besoins fondamentaux du pays dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de faire que nos enfants puissent être nourris, logés, puissent se vêtir, puissent avoir les moyens de porter une parole libre, autonome, indépendante dans un monde compliqué. Voilà. Et le lycée professionnel en particulier est la pierre angulaire de tout ça. Il n'y a pas de souveraineté industrielle, il n'y a pas de souveraineté économique, numérique, alimentaire, agroalimentaire, il n'y a pas de capacité à répondre aux défis du bâtiment, de la transition écologique, du grand âge, de l'autonomie, du soin sans un lycée professionnel qui est fort et qui est dimensionné pour répondre à toutes ces questions-là. C'est le cœur de la souveraineté et c'est pour ça qu'il doit être remis au centre du système scolaire et non pas toujours à la périphérie. Enfin, y a des discours archaïques que malheureusement j'entends encore, qui disent que le lycée professionnel devrait forcément être la voie pour ceux qui ont des difficultés. Mais non, on n'a rien compris, en fait. On a besoin d'attirer les meilleurs dans les formations professionnelles. Ce qui nous a manqué il y a 2 ans, pendant la crise énergétique, c'est pas uniquement des ingénieurs, quand il a fallu relancer le nucléaire, il nous a manqué des soudeurs et des tuyauteurs.
On a été chercher en Angleterre.
Et au Canada et aux États-Unis, il nous a manqué 7000. L'immense défaillance aujourd'hui est dans le fait qu'on a fait croire que ce n'était pas des métiers dont on avait besoin pour l'avenir. Mmh. Et d'une part, que le lycée professionnel n'était pas forcément la voie royale pour réussir dans sa vie.
Alors, c'est tellement juste. Mais ce que vous dites, c'est formidable. Il y a d'autres ministres qui l'ont un peu dit. Mais comment on fait? En combien de temps? Vous êtes là, oui, il faut remettre l'enseignement professionnel. Comment? Ouais. Quand? Où?
Ça a déjà commencé, regardez. Je vais vous donner un chiffre que peu de gens ont noté. On perd des élèves dans notre pays. Comme vous le savez, on est malheureusement dans un pays vieillissant. C'est comme ça, c'est la démographie. On a perdu 80 000 élèves dans la rentrée 2024 sur notre système scolaire.
Pour ça qu'on a supprimé des professeurs.
On en perd à l'école primaire, on en perd au collège, on en perd au lycée général, on en perd au lycée technologique. Et le seul segment de tout le système scolaire qui en gagne, c'est le lycée professionnel. On a gagné plus de 15 000.
Pourquoi? Voilà.
Parce que, premièrement, tout le monde a compris que c'était la voie d'avenir. Le sens de l'histoire, c'est être capable de répondre aux défis fondamentaux du pays et qui sont très concrets, qui ne sont pas dans le ciel éthéré des idées. Deuxièmement, parce qu'on a réussi à changer aussi le regard des jeunes et des familles, ce lycée professionnel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde a compris, dans les différentes crises qu'on a traversées, qu'il fallait se préparer pour l'avenir. Et que y a bien des matières techniques...
Dans le professionnel, vous mettez l'IA?
Forcément. Forcément.
Bien sûr.
Parce que l'intelligence artificielle peut nous permettre aussi de revoir de manière totalement différente des métiers qu'il y a quelques années, on disait, sur le déclin, en repli. Voilà. Notamment dans tout ce qui est la gestion administrative. On a des bac pro gestion administrative. Tout le monde me dit, on en forme trop en France. Premièrement, ça dépend des territoires. Deuxièmement, c'est notre mission de faire évoluer les formations pour qu'elles correspondent à ce dont ont besoin les entreprises, les territoires, nos administrations, et qu'on soit à la hauteur des transitions d'aujourd'hui et de demain. Et donc, le chantier que j'ai lancé et qui me semble fondamental pour l'avenir, c'est la remise à plat de la politique d'orientation. Parce qu'en réalité, dans ce pays, on a eu des débats pendant des mois et des années sur Parcoursup, sur Affelnet, sur des questions d'outils, d'affectation, mais on n'a jamais traité la question de l'orientation. L'orientation, c'est comment est-ce que, à tous les stades du système scolaire, on donne aux jeunes les outils nécessaires pour les aider à construire leur choix. Ça passe par les stages, le fait d'aller en entreprise, ça passe par des immersions, ça passe par des semaines de découverte des métiers, ça passe aussi, évidemment, par la formation de nos équipes, côté éducation nationale, de nos enseignants, des professeurs principaux. Ça passe par tout un tas d'outils. Le lycée professionnel, par exemple, a, je ne sais pas si vous le savez, maintenant des responsables des bureaux des entreprises. Il y a des personnes qui font, dans nos établissements, le lien entre le lycée, l'éducation nationale, et le reste du territoire. Et ça, c'est un changement de regard total. Ce sont des ambassadeurs du lycée professionnel.
Depuis quand ?
Sur le territoire. Là, on est sur la deuxième rentrée où c'est mis en place. Et puis, ça nous permet de changer en profondeur le regard sur les territoires que les entreprises, parfois elles-mêmes, portent sur le lycée professionnel, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer nos formations et d'associer aussi, du coup, les acteurs du territoire, les collectivités, oui, les entreprises, à la construction.
Les Allemands sont en pointe là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'ils partent du besoin des entreprises pour former les futurs techniciens, parce que c'est des techniciens maintenant dans les entreprises, l'industrie 4.0 dont on a besoin. Donc c'est vrai qu'il y a une revalorisation à faire justement sur ces métiers formation professionnelle. Ça va continuer après vous, écoutez, Alexandre Portier, on l'espère.
En tout cas, creuse le sillon. Ça me semble indispensable. Ça me semble indispensable qu'on puisse porter un discours qui soit fort sur ces enjeux-là. Parce que, indépendamment des questions de personnes, c'est l'avenir de nos enfants.
Indépendamment des questions de personnes, on a eu une succession de ministres, non, mais on délirait, on passait on nous expliquait quelque chose auquel on adhérait, on avait un ministre qui succédait dans les 15 jours et qui disait le contraire. Compliqué.
Je crois qu'on a d'abord besoin, et les Français le demandent très fortement, de stabilité dans notre pays, à tout point de vue, et que les politiques qu'on mène puissent être ancrées dans la durée. Les Français sont très lucides sur la situation, très lucides aussi sur le diagnostic.
Ils sont aussi responsables, parce que c'est vrai que c'est
maintenant
facile de tout mettre sur vous, par exemple, lorsque vous arrivez. Moi, je crois très profondément que l'État, nounou, a tué la responsabilité individuelle. Je veux dire, les parents ont un véritable rôle. C'est à eux d'être sévères, d'interdire, de s'occuper du téléphone portable qui reste sous l'oreiller. Enfin, et je crois qu'il faut à la fois être modeste quand on est ministre en redonnant cette responsabilité, en demandant quelque chose aux Français. On est dans un état aujourd'hui où il faut compter sur soi-même.
Il faut toujours être humble quand on a un mandat et une mission qui nous est confiée, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a que du courage et comme seule mission d'additionner les forces. La force d'un pays, ce sont...
Vous avez reçu des parents, beaucoup, en étant ministre ?
Oui, j'en ai reçu beaucoup. J'ai reçu tout le monde. Parce que tout à l'heure, vous parliez, par exemple, des entreprises. J'ai reçu tout le monde. J'ai aussi bien discuté avec les organisations syndicales que les représentants d'entreprises. J'ai été dans des établissements où j'ai rencontré directement des entreprises.
Encore ces derniers jours. Et d'ailleurs, on vous a ce matin.
Encore ces derniers jours, je discutais avec les représentants des entreprises et notamment beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le décrochage. On a tout un tas d'initiatives et moi, je voudrais qu'on arrive à sortir de ce logiciel un petit peu binaire, bien, mal, uns ou les autres. On n'est pas dans un moment où on peut se payer le luxe des chicayas, des oppositions stériles entre les uns et les autres. Premièrement, parce que la configuration politique est compliquée et que forcément, ça demande aux uns et aux autres de trouver le sens de la raison. Deuxièmement, parce que c'est le sens même de l'engagement politique. Si on invente la démocratie, c'est précisément parce qu'on considère que le compromis, l'effort collectif est la seule manière de vivre ensemble et d'avancer.
Est-ce que vous seriez... c'est bien parce que les élèves font des stages maintenant, un peu plus. Et finalement, c'est quand même facile quoi qu'on dise, parce que oui, c'est une honte. Il y a ceux qui ont du piston, d'autres pas. Non, on arrive à faire des stages. Est-ce que vous seriez favorable vraiment à imposer que les professeurs aillent 15 jours par an dans des entreprises ? Je crois que c'est fondamental.
Il faut qu'ils fassent un stage également, un stage professeur.
Mais absolument.
De 5 jours ou de 15 jours ?
Absolument, non, mais les profs d'université aux États-Unis travaillent l'été, c'est imposé. Je veux dire, on ne ne peut pas dissocier, comme on le fait tout le temps, tout ce qui relève de l'État, et c'est normal, l'enseignement relève de l'État, le dissocier du monde de l'entreprise. C'est la même chose en médecine, c'est la même chose, et c'est grave et c'est très particulier à notre pays.
Je crois que il y a des étapes avant qui sont fondamentales sur lesquelles on doit faire d'immenses progrès. Premièrement, on a un déficit de formation de nos professeurs principaux, de nos enseignants sur ces questions-là. C'est pas de leur faute.
Mais sur quelles questions ?
Sur les questions d'orientation, de valorisation des métiers. Ce qui n'est pas de leur faute, mais c'est simplement que quand on demande tout aux enseignants, à un moment donné, par définition, ça devient compliqué. Donc il faut aussi qu'on priorise.
Pourquoi tout ? Qu'est-ce qu'on leur demande ?
Vous voyez bien, on demande aujourd'hui à l'école... Enfin, un jour, faites l'exercice d'ouvrir le code de l'éducation et de chercher ce que sont les priorités de l'école. Quand vous aurez fait la liste, vous m'appelez et vous serez vous-même consterné. J'ai fait cet exercice quand je suis arrivé à l'Assemblée en me disant quelle est la base juridique très claire quand j'ai été élu député sur laquelle on travaille. Je pensais que ça tenait en trois lignes, les priorités de l'école. Je pensais que les choses étaient assez simples dans notre pays. Et j'ai été effaré de découvrir qu'il y en avait pour plus de 2 pages.
Voilà. Jamais très simple.
Quand tout est prioritaire. Enfin,
si vous allez dans une entreprise et que vous regardez un petit peu ce qui nous guide dans tous les domaines,
tout est perfectible du coup.
5 pages, oui, 5 pages, c'est rien.
Tout est perfectible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on trouve des leviers qui sont assez clairs. Ma préoccupation, c'est que l'école soit toujours, à tous les niveaux, aussi bien sur le plan des savoirs que des savoir-être, sur le plan des connaissances comme des compétences, le lieu qui ouvre le champ des possibles. Et ce que je vois ces dernières années, c'est qu'on a eu des bonnes idées. On est tous convaincus qu'il faut que nos jeunes se confrontent au réel, voir des entreprises, ou en tout cas le monde professionnel, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, hein, l'associatif, l'administration sont aussi des manières d'être très utiles à la société. C'est un enseignant qui vous dit ça, donc j'en suis évidemment convaincu. Mais,
vous étiez enseignant, pardon, je ne le savais pas.
J'étais professeur de philosophie, oui.
Ah, formidable.
Et ce qui, moi, me semble important, c'est que quand on a des bonnes idées, on s'assure qu'elles atteignent bien la cible. Et ce que je vois, c'est qu'on a voulu, par exemple, que tous nos jeunes de seconde fassent des stages en même temps. Et malheureusement, il y a une partie des jeunes qui sont restés sur le carreau.
Oui.
Ouais. Non, mais pas une petite partie, malheureusement. Quand vous avez plus de 10% de nos jeunes qui ne trouvent pas stage et qui restent en établissement ou à la maison, c'est un échec. Et ceux qui restent, par définition, sont ceux sans doute qui en auraient le plus besoin.
Absolument.
Voilà. Et là, elle est là, la rupture de l'égalité républicaine. Et quand vous avez comme ça...
Vous n'avez pas non plus mobilisé suffisamment les entreprises. Nous avons des conférences, je l'ai dit, les chefs d'entreprise n'y pensent pas forcément. Il n'y a pas eu de mobilisation des entreprises pour prendre les enfants.
D'où le sujet que j'évoquais, la question de l'orientation et le travail que je menais et qu'il me semble indispensable de poursuivre à l'avenir pour pouvoir mobiliser les représentants des entreprises dans ce territoire et dans ce pays. Et en l'occurrence, quand je regarde la manière dont se gèrent les stages aujourd'hui, ceux qui trouvent le plus facilement, ce sont ceux dont les parents sont engagés, ont du réseau, et puis les autres, malheureusement, trouvent aussi par défaut. Et si le stage ne vise qu'à reproduire des inégalités sociales, on n'aura rien réussi, par définition. Voilà. Si ça ne fait que faciliter le parcours de ceux qui avaient déjà tout pour que ça marche et que finalement les autres font par défaut.
Est-ce que l'administration prend des stagiaires ?
Ah oui, forcément, oui. Oui, oui. Bien sûr.
Donc on pouvait l'obliger à prendre tous ceux qui restent sur le pavé.
Mais c'est pas le but d'un stage.
C'est pas le but, mais c'est mieux que de rester à la maison.
On fait pas de l'occupation.
C'est mieux que de rester à la maison. C'est mieux que de rester à la maison.
Un stage, il doit ouvrir le champ des possibles. C'est un outil de formation et de découverte. Et la politique du stage, c'est juste reporter sur papa-maman qui peut m'aider et l'administration de récupérer ceux qui n'auraient pas trouvé, pour moi, c'est quand même dommage. En tout cas, c'est
bien
un immense gâchis.
Bien sûr, mais... Ouais. C'est moins pire que de rien faire.
C'est pas la vision que je m'en fais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse aux modalités pour arriver à faire ce brassage et cette ouverture qui sont nécessaires. Un stage, ça peut pas être un outil qui reproduise les schèmes territoriaux
bien
et familiaux. C'est pas la vision que je me fais de la méritocratie et de l'ascenseur social.
Je suis d'accord. Et s'il y avait une conclusion, et c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, quelle serait votre innovation en matière de collaboration entre école et entreprise ? Comment est-ce que vous pouvez faire appel à l'entreprise, qui ne demande que ça, pour améliorer cet enseignement ou cette éducation, d'ailleurs ?
Il y a un sujet qui m'a semblé fondamental, que j'ai poussé et que je pousserai toujours, c'est le partenariat dans la construction des formations dans l'enseignement professionnel, qui me semble absolument décisif. une formation qui marche, c'est une formation sur un territoire qui débouche sur de l'emploi, qui permet à des jeunes de s'insérer, qui leur donne des perspectives de poursuite d'études, qui est dans le concret, voilà, qui n'est pas dans le ciel des idées. Et à chaque fois qu'on fait cette construction-là avec les entreprises, ça marche. Il y a un outil qu'on a pas encore exploité à sa juste mesure, c'est ce qu'on appelle la coloration des formations. C'est le fait de s'appuyer sur des entreprises d'un bassin pour qu'elles puissent apporter des outils, financer les plateaux techniques par exemple, contribuer à rendre encore plus concret et opérationnel la formation, et que derrière le lycée professionnel soit ouvert à ce travail-là. Et ça, c'est une étape qu'on a franchie ces derniers mois qui doit être maintenant décuplée et démultipliée pour l'avenir. C'est ça la formation de l'avenir.
Eh bien écoutez, on espère que c'est vous qui l'assurerez.
Merci. Ce ministère. Merci. Alexandre Portier, donc ministre délégué en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, ça aura duré 2 mois et 14 jours.
Oui, mais voilà. il a dit des choses.
Et je pense qu'on vous reverra très prochainement. Voilà, un homme de conviction en tout cas. Merci Sophie Montand, vous restez avec nous dans un instant la suite. Première table ronde, la responsabilité individuelle est-elle étouffée par l'État? À tout de suite.